RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC avec la Dream Team, Stephen Brun, Félix Gabory, Frédéric Weiss.
Salut Pierrot, salut tout le monde.
Bonjour, salut tout le monde. Ça y est, c'est parti, c'est un spécial play-off. On va faire le point sur les premiers matchs, les play-offs d'abord à l'Est, ensuite à l'Ouest. Et dans la partie historique, vous allez me raconter les play-offs, la première campagne de play-off d'une méga star de l'histoire de la NBA. Par exemple... la première campagne de play-off de Magic Johnson qui se finit par un titre.
Par exemple, ça aurait été pas mal.
C'était pas, on n'avait pas le droit.
On n'avait pas le droit parce qu'on l'a déjà raconté trois fois. À chaque fois, c'est Fred.
Chaque fois, c'est moi, oui.
Donc cette fois-ci, ce sera d'autres mégastars qui ont connu des fortunes diverses pour leur première campagne de play-off. Vous avez regardé des matchs en direct ? T'as commenté des matchs, Fred ? T'as commenté quoi ?
Raptors, Cavs.
Sympa.
C'était affreux.
Ton équipe, par contre.
C'était affreux. Et Paul Tull, il n'a même pas joué la deuxième mi-temps. C'était catastrophique.
Jamal Sheed.
Non, mais il y a du bon Harden, du bon Donovan.
Mobley. Oui, oui, c'est vrai. Mobley a été très bon aussi. Ouais. Oui, oui.
C'est correct.
Non,
mais il y a un écart entre les deux équipes.
C'est
pas la série la plus excitante.
Surtout que sur les trois superstars Toronto, s'il y en a une qui met pas un pied devant l'autre, ça commence à être compliqué.
En revanche, il y a des séries
magnifiques
qui sont beaucoup plus excitantes. Et donc, on va démarrer par les playoffs à l'Est.
McCollum wants the matchup. Goes to work. Couple of crosses. McCollum with the basket. Makes it home. Atlanta has a lead. Brunson to tie the game. And he does. Book it for Brunson.
Nice. Oh, Jalen Brunson.
Hart with the rebound. No timeout called. Get it up for Bridges. Put it up for the win. And he missed it. Atlanta comes all the way back from 14 down and ties the series. They win game two in MSG. 107-106.
Et donc, pour commencer, peut-être... la surprise de ces premières du play-off, c'est Orlando qui est allé croquer Détroit à l'extérieur sur le match 1. Et j'ai envie de dire, avec une certaine assurance. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un hold-up. Ils ont été devant de bout en bout. Ils les ont fait déjouer complètement.
Félix. Bah ouais, quand tu regardes le match, là, tu te demandes qui vraiment est le premier de la conférence Est et le huitième. Vraiment, je pense que si tu sors de 6 mois de sieste ou de prison et que tu n'as pas vu du tout la saison régulière, ouais. Et bah en fait, en te ramenant devant ce match, tu te dis.
Coma, bah voilà, des trucs sympas.
Tu te dis Orlando est le leader de la conférence Est, est le first seed, et Détroit s'est qualifié à l'arrache 8e. Vraiment, pour l'instant, il n'y avait pas photo entre les deux équipes, et parce qu'Orlando est sur une lancée assez folle. Après son play-in contre Charlotte, où tu sens que tout s'est mis en place, une énergie, notamment une énergie défensive, enfin, ils ont trouvé un peu cet ADN défensif. Alors, ils ont remis le temps, ils ont attendu le mois d'avril pour le faire, mais au moins, ça vient d'arriver. Et là, ils sont assez injouables sur ces deux derniers matchs. Et je regardais en direct le match contre Détroit d'Orlando, et t'avais le journaliste américain.
Tu l'as regardé où?
J'ai regardé, alors la fin de match, quand j'ai entendu ce que je vais te dire là, j'étais dans le métro, je revenais de soirée, oui, mais c'était samedi soir.
C'est pas ma question. Les commentaires étaient en quelle langue?
Les commentaires étaient en américain, justement, Julien.
Magnifique.
C'était sur le
League Pass. J'ai commenté celui-là aussi.
Et le suiveur de Orlando, donc, qui a regardé tous les matchs d'Orlando cette saison, a dit c'est tout simplement le meilleur match d'Orlando cette saison, je n'ai jamais vu Orlando jouer aussi bien cette saison. Et ça arrive pile au bon moment. Et ils font peur, Orlando, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps dans ce podcast. Fred était assez en colère, même, et était très déçu de cette saison d'Orlando.
Pierre aussi, vous étiez tous très en colère. Ils se mettent
en route au meilleur des moments. Et toutes les attentes qu'on avait en début de saison et qui n'ont pas été réalisées pendant toute la saison,
on les a vues sur le premier match de play-off.
C'est en train de se voir sur le premier match de play-off.
Alors, c'est durable ou pas, Fred?
Honnêtement, je sais pas. Alors, il y a plusieurs choses.
Jalen durable, c'est ça que je veux dire. Ok, Steve est en forme. Alors, en plus, on a 8 séries, donc il y a des possibilités multiples de jeux de mots.
Je ne sais pas si ça peut durer, mais c'est vrai qu'ils sont à un très très bon niveau. Moi, j'ai vu Suggs exceptionnel défensivement.
Après, c'est un bon joueur, lui.
C'est lui qui lance le match.
C'est lui qui lance le match exceptionnel, vraiment, ce qu'il a proposé.
Honnêtement, sur la saison d'Orlando, s'il y a un joueur qui a répondu présent, alors quand il était là, parce que ouais, malheureusement, souvent l'infirmerie, c'est bien Jalen Suggs. Hein.
Clairement, mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, il met vraiment son équipe sur les rails, ça défend bien, c'est dur. Banquero trouve des solutions, tout le monde a apporté vraiment sa pierre à l'édifice. Mais je me pose deux questions. La première, quand t'as pas joué bien au basket pendant tout ce temps-là, que t'es un épiphénomène, que après les play-ins qui ont été très bons, tu puisses enchaîner un bon match, oui. Est-ce que t'es capable d'en enchaîner d'autres? Je me pose la question. Et l'autre question que je me pose, c'est que Détroit a une semaine de vacances. Et parfois, on se dit, c'est important d'enchaîner les matchs, de continuer les matchs, et tu peux perdre un petit peu de rythme. Et en tout cas, c'est ce que j'ai eu l'impression de voir, une perte de rythme sur le premier quart-temps. Mais dans l'absolu, moi, quand on m'a posé la question juste après le play-in, j'ai dit oui, je pense que ça peut être un match fondateur, ce match contre les Hornets. Donc, quand tu reviens de l'enfer, quand tu viens de trouver des solutions, quand tu défends enfin, quand Banchero fait le taf et que chacun apporte ce qu'il doit apporter, bah, cette équipe d'Orlando est dangereuse et surtout elle correspond pas très bien à Détroit parce que c'est justement ils sont tellement proches parce que physiquement c'est dur parce que ça va se taper que ça va être une match-up compliquée.
C'est un flip étonnant quand même pour Orlando qui le dernier match de saison régulière a été honteux. À Boston contre l'équipe B des Celtics. Donc je sais pas ce qui a pu se passer, un petit rendez-vous dans le vestiaire, une petite discussion pour se dire bon les mecs on va pas tout gâcher non plus.
Le problème c'est qu'on n'a pas d'infiltré à Orlando. Non, on n'a pas un petit français non, dans le staff ou dans l'équipe.
On a personne mais
si, il y a Noah Penda.
Voilà comment on va savoir.
Et puis Noah Penda qui a un bon siège pour regarder, pour regarder ce qui se passe. Non, mais Fred a raison, ils se sont mis. Après, ces deux équipes, c'était très brouillon comme match. Hein. Oui. Ça jouait à 10 000 à l'heure. Ces deux équipes qui basent pas leur jeu sur le tir à 3 points. Ces deux équipes qui sont pas. Qui n'ont pas des énormes pourcentages sur le tir à 3 points. Et je crois qu'Orlando a emmené Détroit sur un match qui leur convient mieux, c'est-à-dire beaucoup de possessions, ça joue très vite. Et Détroit s'est un peu perdu. Là où je suis très déçu des Pistons, alors cette semaine de repos peut-être les a enlevés du rythme, mais on voit que les Spurs n'ont pas joué pendant une semaine aussi. Ça les a
oui, mais j'ai dit que ça bien. Pouvait hein, ouais, ouais, expliquer
mais,
ça.
Mais c'est Jalen Duren, en fait. On dit souvent les playoffs, c'est une autre découverte. Et Jalen Duren, il a compris ce que c'était. Et je l'ai trouvé. Enfin, c'est Wendell Carter Jr. en face. Hein. Il s'est fait manger par Wendell Carter Jr. Jalen Duren, qui va sûrement être dans deuxième ou troisième meilleur 5 de la saison. Il fait un très, très petit match. Et Kate Cunningham, mine de rien, les stats sont monstrueuses pour Kate Cunningham, mais elles sont un petit peu trompeuses, Kate Cunningham, parce que son premier quart-temps n'est pas très bon. Il ne lance pas bien son équipe dans cette rencontre-là. Et il voit vite que ses partenaires ne sont pas dans le coup. Et il se dit, et c'est un réflexe qui est un peu humain, il se dit, OK, bon, tout le monde est nul, et ben, je vais tout faire moi-même. Et donc, il s'est un peu isolé du reste de l'équipe. Et Orlando, eux, ont joué un très beau collectif, parce qu'il n'y a pas un mec... Il y a beaucoup de mecs qui ont pris beaucoup de responsabilités. Bane a shooté 20 fois, Wagner a shooté 14 fois. Il y a une belle répartition des tirs, tandis qu'à Détroit, c'est Kate Cunningham, un petit peu Tobias Harris, mais Tobias Harris, toute sa vie, il fera entre 15 et 17 points toute sa carrière, partout où il va. Et derrière, ils sont portés disparus. Le petit Jenkins, qui a été une très belle surprise quand Kate Cunningham était blessé. Et écoute, mon grand, c'est des playoffs. C'est avec un jeu qui est basé sur l'adresse. Il est passé au travers. Donc, la vraie problématique pour Détroit, c'est qu'il y a cette petite musique qui traîne de leur tête. C'est que depuis 2019, ils n'ont pas gagné un match de playoff à domicile.
La série est terrible.
Depuis l'année dernière, ils font 4-2 contre les Knicks, sauf que c'est deux matchs qu'ils ont gagné au Garden. Ils n'ont jamais gagné chez eux depuis 2019. Donc, c'est une petite stat qui, si elle passe entre les mains de certains joueurs, peut un petit peu trotter dans leur tête. Mais Orlando. Ils ont fait le plus dur. Je ne sais pas s'ils ont fait le plus dur parce que Détroit est capable de gagner deux fois Orlando, mais je pense que ça fait beaucoup de bien au moral.
Une fois suffira. Ouais. À Orlando.
Ah oui, pour récupérer l'avantage du terrain, oui. Mais moi, ça m'a plu. L'intensité mise par cette équipe du Magic, ça m'a plu.
Moi, seul, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un joueur aussi actif.
C'est vrai qu'il a montré aux autres sur le premier quart-temps, venez les mecs, je vais vous montrer l'intensité qu'il met deux tirs à trois points, la défense, l'attitude, le
module. Il intercepte, il est absolument partout.
Et alors, il y a vrai danger donc pour les Pistons, vous pensez?
C'est qu'un seul match, mais moi la vraie question que je me posais, Stephen, et je suis un peu d'accord avec toi là-dessus, c'est derrière Kate Cunningham, qui peut prendre le relais offensivement? Parce que quand il est un peu en galère, ou quand de toute façon il peut pas faire tout seul, et en fait derrière c'est qui? C'est Jalen Duren qui est censé prendre ses responsabilités, aller mettre des points, mais est-ce que Jalen Duren...
Après il faut lui donner les ballons aussi,
mais est-ce que Jalen Duren, en termes de profil de joueur, peut scorer tout seul?
Il a besoin de fournir son ballon, bien sûr.
Et donc c'est ça ta deuxième option offensive. Donc c'est compliqué, tu vois.
Jalen Duren, même si.
T'as Tobias Harris, mais bon, voilà.
Parce qu'il met 25 points. Mais dans la dureté, dans l'impact au rebond d'aller à Mayoche, qui est un peu son ADN. C'était un peu son ADN. Il était transparent là-dessus, sur les basiques de son job.
D'ailleurs, il s'est vu. À un moment, il prend un rebond offensif, il remonte directement au dunk. Tu vois qu'il a toute la frustration qu'il essaye de mettre dedans parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, en fait.
Et alors, bon, on passe vite sur Raptors et Celtic Sixers. Vous voulez en dire un mot?
Cavs Raptors, moi je suis très inquiet pour les Raptors. C'était très très laid. Brandon Ingram, je sais pas où il en est, mais Dean Wade est en train de lui rentrer dedans de façon incroyable. Lui aussi, on parle de bonne défense. Dean Wade, j'ai trouvé magnifique. Et les Cavs, ils ont trois joueurs.
Ils ont un talent supérieur en attaque, Harden, Evan Mobley et Donovan Mitchell.
Et même Jarrett Allen, sur des périodes où justement il y avait besoin.
Sur le match, il commence, il met trois Thomas, Jarrett Allen, il met le match.
C'est fini.
Mais les Raptors, et puis tu joues 38 minutes avec Jamal Sheed à la main, qui, c'est beaucoup de minutes pour un mec qui n'apporte pas grand-chose. Et si t'as Brandon Ingram qui passe à côté.
Il est petit en plus. Défensivement, c'est compliqué.
Moi, les Raptors, s'ils en prennent un, j'ai envie de dire bravo pour votre saison, même si Fred sera très triste.
Hyper déçu des Raptors, c'était. Je sais que tu les aimes beaucoup aussi, toi, Fred. Moi, quand j'ai fait mes brackets en début de play-off, c'était une des surprises que je voyais à l'Est. Donc, c'est pas fini, ils peuvent toujours tout retourner. Non, mais ce qu'ils étaient sur.
Ouais, ça va être dur, là.
Déjà, d'une, parce que les Raptors étaient sur une super dynamique et je trouvais défensivement et même au niveau de leurs 5 majeurs, tu vois, quand les rotations se resserrent, ils ont quand même une vraie belle équipe de basket. Et en face, pour moi, Cleveland me donnait pas vraiment de garantie. Donc, si on devait me demander un petit peu en upset sur ce premier tour des playoffs à l'Est, j'aurais mis une petite pièce sur Toronto. Heureusement, j'ai pas mis un trop gros billet.
C'était un bracket ouvert, quoi.
Ouais, mais je voyais un petit upset. Mais après, c'est pas fini. Hein,
Félix n'est pas dans la vanne. Hein, dans l'analyse.
Sérieux.
Il y a que deux. J'ai pas compris la vanne, Pierrot.
La bracket ouverte.
Bracket ouvert. Pardon, excuse-moi. Je suis trop premier degré là. Je suis vraiment pas content, Pierrot, en fait, de ces Raptors.
Mais la problématique, elle est à l'intérieur, Potley.
Après, il y a que 2-0.
Il joue 9 minutes hier.
Potley.
Il joue 9 minutes hier parce qu'en fait il dit c'est un carnage contre lui.
Moi je suis désespéré, vraiment.
Par les Raptors, que t'aimais bien.
Non, mais j'ai pas tout jeté comme ça.
Il y a que 2-0, c'était deux matchs à l'extérieur.
Oui, mais deux matchs étaient horribles.
Et ça va vite.
Il n'y a pas un money time, il n'y a rien.
Et la blessure de Quickly, l'absence de Quickly,
ça oui, il devrait revenir pour le prochain match.
J'espère, parce que Jamal Sheed.
Il faut toujours se méfier des équipes qui ont des joueurs hors normes qui n'ont jamais gagné.
C'est-à-dire après, on est dans la prononciation, c'est Shade.
Jamal Shade.
Ouais. Jamal Shade.
Mais moi aussi, je l'appelais Shade et tout le monde m'a repris.
Harden et Mitchell dans la même équipe. Alors, tu peux te dire que c'est vrai que parfois, ça fait n'importe quoi.
Mais toi, Péro, c'est qu'ils connaissent.
Oui, mais c'est pour ça que je te dis. Oui, voilà. Mais c'est quand même des clients à prendre au sérieux.
Ah oui,
c'était quand même numéro 1 l'an dernier. Enfin, sans Harden, évidemment, mais. Ça reste un potentiel quand même pour aller très haut. Hein.
Ouais, mais sur la régulière, ils m'ont pas donné de garantie. Hein,
mais sur le banc, ils ont toujours un mec capable, Max Truss, sur le match 1, mais 26. Ils ont quelques joueurs sur le banc. Même sur le banc, ils me paraissent supérieurs à Toronto.
Mais réellement, sur ce match-là, c'est le banc de Toronto qui est largement au-dessus du banc des Cavs. Et donc, c'est là que ça peut faire peur en plus, parce que s'ils progressent sur ça.
Et Celtics Sixers, on part vers un 4-0.
Boston, c'est très solide.
Ah oui.
Il y a deux équipes qui m'ont fait très forte impression, c'est Boston et OKC. OKC, ils sont pas venus pour rigoler, je te dis tout de suite. J'ai vu Alex Caruso mettre des full court pression tout terrain. Oh, le carnage.
Après, les Suns, ils ont pas les cadres pour.
On va parler de l'Ouest dans un instant, mais les Sixers peuvent exister ou c'est.
Tout dépendra d'Embiid. Si Embiid revient, on rappelle là qu'il s'est fait.
Il s'est fait opérer d'une bide.
Ça y est, enfin, t'es lancé quoi.
J'ai compris ça va parce qu'il a fait le geste en même temps en se touchant le bide.
Ouais, il est obligé pour toi, c'est vrai que comme tes premiers degrés.
Non, mais tout dépendra de Joel Embiid. S'il revient, ils peuvent peut-être accrocher un ou deux matchs sans lui, s'il ne revient pas de cette opération de l'appendicite.
Déjà, je ne sais pas comment il pourrait revenir parce que l'appendicite, c'est pas si simple que ça. Et en plus, même avec ça, je pense qu'ils sont lancés.
On a l'impression quand même que on a des champions potentiels.
Potentiels à l'Est, oui.
Mais c'est une équipe qui peut être championne.
Jason Tatum, bon match.
Je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas bien.
Pour une équipe qui était censée vivre une année de transition, c'est quand même assez exceptionnel là, ce qui se passe.
Oui. Une année de transition voulue par la blessure de Jason Tatum.
Ouais, mais pas que, parce qu'ils avaient quand même viré des mecs, ils avaient quand même pour l'oseille.
Trop de contrats.
Bien sûr. Donc il y avait quand même une volonté un peu de.
Après, quand ils ont pris Vucevic au mois de février à la trade deadline, on a compris qu'ils étaient là pour des choses sérieuses.
Oui, en plus, c'était un super business.
Et puis Philly, moi j'ai vu des erreurs défensives, les mecs qui font des mauvaises rotations. Il laisse Sam Hauser tout seul, grand ouvert à 3 points. Il laisse les shooters de Boston. Les rotations défensives de Philly étaient un travers complet.
Il y a une académie de jeu à Boston et effectivement, si t'es pas bien concentré défensivement, t'en prends une.
Peut-être qu'ils peuvent rétablir ça. On ne sait jamais. Non, tu crois pas?
Non,
les Sixers.
T'as un bon coach quand même, Fred, qui peut faire ça. Nick Nurse, pas n'importe qui.
Il faut que Maxi mette 45
sur
un match et que Hitchcock mette 25 ou 30 et que Kelly Oubre ait un petit coup de
George aussi. Paul George qui peut play-off P, on n'oublie pas.
Mais après, dans la raquette, il va falloir un peu de viandasse.
Alors, il nous reste donc une série qui a été complètement relancée par une fin de match hallucinante là, lors du match 2 entre les Knicks et les Hawks, puisque ça fait 1-1, alors qu'il semblait quand même qu'il y ait une différence de niveau entre ces deux équipes, mais je crois qu'ils finissent sur un 13-0 dernières minutes pour reprendre l'avantage.
Oui.
C'est quoi ? C'est juste que les Knicks ont eu un trou noir et sont passés au travers ou c'est inquiétant ?
Honnêtement, c'est vraiment très difficile à dire, mais c'est vrai que d'un seul coup, Atlanta s'est mis à beaucoup mieux jouer, ils ont été plus en confiance, ils ont mis la pression aux Knicks, et d'un seul coup, ils voyaient plus clair.
DJ McCollum a pris feu.
Fait, le problème, c'est que quand ces Knicks-là ont des problèmes, ils s'en remettent absolument uniquement à Brunson. Et donc forcément, c'est très facile à lire quand même.
C'est la fin de match des Knicks. Où Jalen Brunson se sépare du ballon à Mikal Bridges. Mikal Bridges, il n'a qu'une envie, c'est de venir faire un main à main pour redonner le ballon à Jalen Brunson.
Mikal Bridges, il m'a fait peur aussi parfois. Vraiment, c'est
oui,
du style.
Il a joué 82 matchs cette saison. Important quand même pour lui.
Non, mais il t'a pas fait peur la tête qu'il a quand il a le ballon à la fin.
Ah oui,
il tremble, il dit vas-y, viens me la chercher.
Et puis surtout, Jalen Brunson, alors en attaque, on sait que c'est Jalen Brunson et les autres. Mais défensivement, Jalen Brunson, il a été ciblé par CJ McCollum et il a ramassé sévère. Parce que sur la dernière possession, McCollum, il veut qu'une chose, c'est un one-on-one sur Jalen Brunson.
Bien sûr.
Et il lui a mis 3 paniers sur la truffe. Jalen Brunson n'a pas pu stopper CJ McCollum. Et on rappelle qu'Atlanta, c'est un petit traumatisme quand même pour le Garden. Alors CJ McCollum s'est transformé en Trae Young parce que la dernière fois qu'un mec avait refroidi le Garden, c'était Trae Young. CJ McCollum a fait la même. Mais cette équipe d'Atlanta, elle joue bien en basket. Brunson, on parlait de la fin de match de Brunson, il perd un ballon. Alexander Walker vient lui voler le ballon dans les mains et après ça donne le tomard de Jalen Johnson. Moi, attention à cette série.
Je suis d'accord. Moi, je suis pas du tout rassuré par ces Knicks. Vraiment pas.
Phoenix. Moi, je pense que les Knicks vont passer au talent parce qu'il y a quand même plus de talent, comme ils font toujours, que ça ira pas très loin. On pourra en reparler plus tard dans les semaines à venir. Mais je pense que ça peut passer, mais ça va être galère. Hein. Ça va être vraiment très, très galère contre Atlanta. Alors qu'Atlanta n'a pas non plus en face un roster qui est effrayant.
Ouais, mais enfin, ça joue bien au basket.
Ça joue bien au basket. CJ McCollum, pour le coup, on voit que c'est quand même un joueur de niveau supérieur.
C'est un mec, les playoffs, il connaît.
Et limite, je suis content parce qu'on a eu tendance toute sa carrière avoir CJ McCollum un peu dans l'ombre de Damian Lillard. On le faisait un peu passer pour limite des fois pour un peintre là, et je suis content de voir à quel point là, même à 34 piges je crois, il est capable de montrer que c'est un joueur de supérieur.
C'est quand même une belle addition, hein.
Alors, vous avez vu son interview à la fin,
et je pense qu'on l'a fait
parce qu'il avait la haine, parce qu'il a raté les deux lancers. Il avait vraiment la haine, et j'ai trouvé ça bien. Ça veut dire qu'ils sont encore motivés, c'est qu'ils sont chauds.
Et sur les lancers de fin de match d'ailleurs, c'est assez kiffant, c'est que il y a eu pas mal de ratés, hein.
Il y a eu pas mal de ratés,
et tu vois que la pression rattrape tout le monde, même les plus grands.
Les Knicks, ils font un match lancé franc pas terrible du tout. Quand ça se joue à un point, et ben tu payes. Mais c'est vrai que tu aperçois qu'il y a Joel Trembler parfois sur la ligne des lancers.
Et t'as raison, Félix. C'est un move qu'on a peu commenté, qui est passé presque inaperçu. Mais l'arrivée de McCollum.
Tout le monde a dit
en tout cas,
la plupart,
Fred, je pense que
c'est faux. Et en plus, quasiment tout de suite, dès qu'il est entré dans le 5 majeur, on a tout dit. Forcément, ça change.
Premièrement, je pense qu'on n'a pas fait un seul basket time sur les Hawks cette saison, déjà. Donc,
on ne s'est pas
attardé plus que ça.
On a dû faire deux trucs sur Zachary.
Zachary, oui, voilà.
Ouais, en disant que depuis que McCollum était là, c'est là qu'il était meilleur. Aucune erreur.
Il a discuté avec Mopen Barr, il s'est envoyé des SMS pendant le match.
Bon, donc danger pour les Knicks et gros danger pour les Pistons, si je résume. Et aucun danger pour les Cavs et les Celtics, évidemment. Donc nous passons à l'ouest.
Quimby on the drive.
What a move.
Two outstretched arms. No. There goes Wembanyama. Took it off the glass. Put it behind his back. Rhino extends a 7-0 run. Spin it on off you. All the way to the basket. Oh, Wemby.
All week you've talked about the playoffs being a dream for you. What was your first taste of NBA postseason basketball like?
That was a great first. You know, we were solid. I'd expect the job not done.
Donc allez, on va démarrer par les champions en titre. Puisque tu étais chaud, Steve, tu vois que le Thunder n'est pas là pour blaguer.
Non.
Les Suns vont ramasser sévère.
Je pense qu'ils vont ramasser sévère. Jalen Green peut faire tous les matchs qu'il veut. Parce que Jalen Green, il s'est fait trader parce qu'il était choqué en playoff. Là, pour l'instant, il fait une très belle fin de saison. Il fait un bon match. Mais OK, si... machine de guerre, défensivement surtout. Alors des points ils vont en mettre par Shake, défensivement, l'impact qu'ils ont. Alex Caruso, défensivement, c'est... Enfin, j'ai vu un cap, en fait, entre la saison régulière, qui était déjà magnifique de OKC défensivement, sur ce que j'ai vu sur le premier match. L'intensité, mais les Suns, parfois, ils ne pouvaient pas respirer, ils avaient du mal à monter la balle. Hartenstein, Chet Holmgren, ils s'y sont mis aussi. Parfois, c'est une machine de guerre, OKC.
T'as été plus impressionné que par les Celtics ?
Oui.
Ouais.
Ouais, clairement.
Okay.
Clairement. Et ce qui m'a impressionné, c'est le, enfin, 84 points encaissés sur un match de play-off contre Phoenix. Il y a quelques joueurs de enfin, Dylan Brooks est capable de mettre des paniers. John Green, ils ont des mecs pour mettre des points. Devin Booker, 84 points. Ouais. En contre la presta défensive de OKC.
Après, ils ont pris le match par le bon bout. Ah, hein, oui, parce que tu sais que si tu laisses jouer les Suns,
ils ont pas plaisanté.
Ils leur ont expliqué avec nous, vous n'avez pas marqué autant de points. Dans ce cas-là, c'est impossible pour les Suns. C'est impossible de gagner.
Ils ont vraiment ce côté asphyxiant, tu vois. Genre, tu regardes le match, même toi sur ton canapé, t'es essoré.
J'ai demandé de changement sur mon canapé.
T'as envoyé des messages à Zachary.
T'as vraiment ce côté rouleau compresseur. Et tu sens qu'ils connaissent le chemin, qu'un premier tour pour eux, c'est tellement que le début de ce qu'ils veulent faire. Que c'est... Non,
ils sont durs.
Ils sont en mission totale. Et aussi, Shai qui est assez. Il me reprend sur toutes les prononciations.
Parce que tu n'étais pas là la semaine dernière. Il y avait une question du quiz sur la prononciation. Chacun de appeler Shai Gilgeous Alexander et tu avais un point si c'était bon.
Et donc on dit Shai.
On dit Shai.
On dit Shai. Et bah du coup, Shai, le moment où il m'a impressionné, c'est dans son duel avec Dylan Brooks. Et c'était assez impressionnant de voir que Dylan Brooks, il a passé son match à essayer de le faire sortir de sa rencontre.
Il bronche pas.
En face, t'as la glace incarnée.
Bah, après, il le connaît aussi.
Oui, non, mais tu vois, non,
oui.
Mais
je trouve que je joue ensemble à l'équipe nationale, ouais, ils connaissent
l'Ousnik. Bien sûr, mais c'est symptomatique de les Suns qui peuvent rien faire, qui sont impuissants. Alors même là, Dylan Brooks essaie de dérégler la machine du Thunder, il peut pas. Il a même mis à un moment donné une claque,
une tartine à Chet Holmgren, mon garçon.
C'était quand même très limite, quand même. Vraiment, une grosse claque. Fred, il me regarde comme si c'était normal.
Bah, il essaie de changer les choses, il essaie de changer la dynamique. Alors il se prend pas mal, mais il essaie.
Le problème, c'est que lui-même, du coup, il sort de son match et du coup, il se concentre pas.
Il ne se concentre pas
sur ce que lui doit faire offensivement.
Tu sais, parce qu'il ne peut pas, en fait, parce que c'est trop dur.
Bah,
tu
l'as dit,
il est essoré. Bah oui, c'est un aveu d'impuissance, clairement. Ouais.
Alors, donc, ça, c'est pareil, on va faire vite parce qu'on va reparler du Thunder dans ces deux mois qui arrivent. Là. En revanche, une série là, qui est très étonnante, enfin plutôt une franchise très décevante, c'est les Rockets sans KD. Ils sont passés complètement à travers leur premier match face à des Lakers qui sont quand même très diminués. Donc là, franchement, le niveau de cette série, c'est pas ouf quand même. Hein.
Bah, il y a un match, Pierrot. Donc,
match très décevant. Moi, j'ai trouvé un match très décevant.
Oui. Après, écoute, quand il n'y a pas KD, ça change beaucoup, 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 beaucoup de choses.
Mais bon, c'est le cas pendant toute la saison. Même le coach disait.
Il n'a pas loupé beaucoup de matchs.
C'est vrai, mais même le coach disait il est obligé de marquer 40 points parce que sinon, on ne peut pas gagner de match.
Et Şengün est décevant. KD n'est pas là, tu fais ça, Alperen Şengün, qui est censé être un top 5 big man de la ligue. Il fait un très petit match, Alperen Şengün. Et les Lakers, eux, ben, LeBron a été bon.
Kennard
qui met 27 parce que là aussi il y a des erreurs défensives de Houston parce que Kennard il peut pas faire 250 trucs sur un terrain de basket et tu sais ce qu'il fait bien et à un moment donné tu essayes de l'empêcher de faire de mettre dedans à 3 points donc t'en prends 27. Marcus Smart a été bon, ils font un bon match les Lakers, mais moi j'ai envie de voir Houston au complet, en fait j'ai envie de voir LeBron
les deux au complet, ça serait mieux.
J'ai envie de voir LeBron versus KD, en fait.
Ouais, mais KD ça revient là pour le deuxième match, je suis pas sûr.
Deuxième match, je ne suis pas sûr.
Mais
le problème, les Lakers, c'est une très bonne nouvelle pour eux qu'ils prennent le premier match, parce que ça veut dire que la série va être un peu plus longue que prévu. Ça permettra peut-être à Lucas, qui est arrivé à Los Angeles pour le match 1 et qui était là, de éventuellement revenir dans la série. Donc plus la série dure, plus c'est bien pour les Lakers pour récupérer les blessés. Maintenant, si KD ne joue pas, tu es à 2-0 et tu es obligé de rentrer à Houston à 2-0, si Lucas revient... Moi, ça m'emmerde parce que cette série, c'était quoi ? C'était LeBron versus KD.
Bah oui.
Et si on ne les voit pas,
première fois depuis 2018.
Et peut-être la dernière aussi.
Ouais. Oui, sûrement la dernière, pas sûr.
Possiblement.
Possiblement.
Mais coup de chapeau quand même aux Lakers, que tout le monde enterrait, notamment Story sans Doncic, et qui arrive à prendre ce match. Alors oui, il manque KD en face, mais quand tu regardes, eux, il leur manque Reeves et Doncic.
Et au complet, qui est favori alors ?
Les Lakers.
Moi, quand il y a Lucas dans une équipe, je pense que
Tu vois l'irrégularité de Houston, qui a jamais réussi à se mettre en place sur la saison régulière.
On parle de Şengün, Thompson aussi est décevant sur ce match-là.
C'est vrai.
Alors on en vient aux deux séries les plus intéressantes à l'Ouest, intéressantes pour nous, le Spurs Blazers bien sûr, mais il y a ce Nuggets Timberwolves quand même, bon, qui est à 1-1 depuis la nuit dernière. On savait que Minnesota, c'était pas un cadeau. Hein. Et alors, je ne sais pas si ça va faire comme Orlando, si tout va cliquer en play-off, mais c'est quand même, voilà, ils ont fini la saison sans Anthony Edwards. Là, au complet, c'est quand même une vraie équipe.
Hein. J'avais plus d'inquiétude pour Minnesota parce que c'est vrai que l'année dernière, ils avaient cliqué un petit peu plus tôt quand même. Là, je trouve qu'ils ont cliqué un petit peu tard, mais c'est forcément une équipe extrêmement difficile à manœuvrer quand tout le monde est là. McDaniel, c'est un exceptionnel défenseur. Rudy a été exceptionnel aussi sur le quatrième quart-temps. Et il faut se rendre compte que Jamal Murray et Jokic ont marqué 4 points au total sur le dernier quart-temps. C'est-à-dire que ils les ont complètement locked down. Franchement, c'était très impressionnant. Je pense que cette équipe est une bonne équipe et que même si McDaniel, parfois, il m'énerve, il a un peu raison quand il dit que ça ne défend pas du tout du côté de Denver. Il y a des joueurs qui sont vraiment des plots défensifs et il va falloir s'appliquer aussi défensivement. Tu ne gagnes pas un titre en défendant comme ça. Hein.
Steve. Mais écoute, ouais, alors le match 1, les Nuggets s'en sortent, mais mine de rien, c'est un match qui est quand même serré. Oui, ouais. Alors que Minnesota fait pas un énorme match. Fred a raison de parler de Rudy Gobert, qui sur les deux premiers matchs, pour moi, est quasiment irréprochable, même si sur le match 1, dans le quatrième quart-temps,
Mais surtout, il fait une passe.
Il tente deux, trois trucs, il a un peu de déchet lancé franc. Mais hier, il fait chier Nikola Jokic. Sur le quatrième quart-temps, si Jokic n'est pas décisif, c'est parce qu'il y a Rudy Gobert. Et Rudy Gobert, il est énorme. Et d'ailleurs, Jokic a beaucoup de compliments pour Gobert en conf de presse d'après-match, lors du match 2, où il dit il est grand, il est dur, il va au contact, il m'empêche d'avoir des bons angles de tir. Donc, du crédit. Et puis, quand il y a Anthony Edwards qui fait un match de patron comme superstar de la ligue, il a tout fait hier, du 3 points, du drive, du post-up, du fade-away. C'est un joueur qui est beau à voir jouer et hier il a été très performant. Il y a des erreurs de jeu dans le quatrième carton dans le Money Time de Denver. Jamal Murray qui fait beaucoup d'erreurs, à la fin ils sont à moins 3, il prend un jumper pourri qui sert à rien.
Mais c'est moi où vous avez l'air épuisé. Est-ce que c'est pas le rouleau compresseur Minnesota qui les épuise
et Jokic qui est très rare qui fait un mauvais choix. Sur un pick and roll, short roll, il a un flotteur à mettre. Alors
oui,
que
il a donné un flotteur,
il fait une passe à Christian Brown pourri, il y a faute, il fait 1-2. Alors, peut-être une question de lucidité, un peu de fatigue, parce que c'est rare de voir Jokic faire des erreurs de jeu comme ça dans un money time. Donc, là, il y a deux ans, il y avait 4-3. Hein, moi, je pense qu'on est reparti pour un match 7.
Il y a quand même deux options, où tu as raison, offensives, qui sont très étonnantes. C'est cette passe de Jokic que Anthony Edwards a deux doigts d'intercepter sous le panier. Ouais. Et puis, alors la fin de match, moi, j'ai rien compris. Ils sont à moins 3. Jamal Murray a le ballon, donc je me suis dit, il va shooter. Et puis, même si c'est un shoot casse-croûte, tant pis, mais pour égaliser, il reste 9 secondes. Et il vient draguer, essayer de mettre un deux points à une distance
qui est raté. C'est un mauvais choix.
Mais comment s'ils le mettent, ils ont perdu.
Oui, mais s'ils le mettent, il reste du temps.
Ils font faute. Mais c'est très aléatoire quand même. Donc, manque de lucidité.
Mais vraiment, j'ai senti.
C'est un long 2. En plus, c'est un long 2. Donc, potentiellement, il voulait prendre un 3.
Recule un petit peu. Il prend un 3. Mais je les ai sentis éprouvés mentalement.
Est-ce qu'il ne manque pas un peu d'options aussi? Alors, c'est vrai qu'il y a quand même Aaron Gordon, mais est-ce qu'il ne manque pas d'autres options? Que tout repose un peu trop sur Murray.
Moi, je trouve que Christian Brown fait un match correct, même s'il fait 1-2 au lancer franc.
Il y a Tim Hardaway aussi en 6e homme, qui est dans les finalistes pour être 6e homme de l'année. Donc quand t'as ça en sortie de banc, c'est pas mal.
Aaron Gordon fait un match moyen.
Oui, c'est Aaron Gordon, un petit peu en dessous de ses standards.
Il fait un match moyen.
Il met un gros 3 points quand même.
Oui, sur la fin de match, au mini time, mais on attend peut-être un petit peu plus. Maintenant, je pense que à l'Ouest, c'est peut-être la série la plus excitante.
Clairement.
Parce qu'il y a une espèce de petite rivalité. Ils se sont joués il y a deux ans, ça avait fait 4-3. On voit à la fin, Anthony Edwards, il fait un marché, il garde le ballon pas trop longtemps. Jokic va lui arracher le ballon, c'est à deux doigts de partir en prune. Je pense qu'il y a le frère de Jokic qui est dans les tribunes.
En fait, il a montré son frère et lui a donné le ballon.
Donc, se crée une espèce de petite. Il y a quelques antagonismes entre
les deux. Le marché, il y est.
Ouais, il y est. Bah, je sais pas ce qu'il fait. Alors, il y est. Oui. Alors,
non, parce que parfois, ils sont très tolérants, les arbitres.
C'est les playoffs. Les arbitres aussi, ils se disent, on va essayer d'arbitrer correctement. Parce qu'on n'est plus pour le spectacle, on est un peu pour
le basket.
Pour le basket. Voilà. On va respecter le docteur Jeff Naismith.
Je les trouve meilleurs, les arbitres. Ouais. Vraiment, ils ont pris des bonnes décisions. Ouais. En général, les playoffs sont plutôt bien arbitrés pour l'instant.
On va terminer sur Spurs Blazers. Donc, premier match bien maîtrisé par les Spurs. 35 points de Wemby, qui a une ligne de stats un peu étonnante. Pas dans son habitude, c'est-à-dire qu'il y a surtout des points. Il y a peu de passes et de rebonds. Mais 5 sur 6 à 3 points. Ouais. Et bon, c'était un peu ce qu'on attendait. De toute façon, c'est qu'il rentre dans ses playoffs. qui soit au niveau et puis que, surtout que les Spurs gagnent.
Il a apporté ce que son équipe avait besoin. Équipe avait besoin de marquer des points, il met des points et voilà. Mais je pense que oui, il pourra s'adapter, il fera d'autres choses dans les autres matchs. Mais qui peut arrêter Wemby dans cette équipe, hein? Je vois pas, je suis désolé.
Et de faire à ce niveau-là, c'est quand même assez fou ce qu'on a tendance, et même moi le premier en regardant le match, à banaliser un peu ce que fait Wemby, parce que j'ai regardé le All Possession le lendemain matin. Et du coup, ça nous paraît normal de voir Wemby mettre 35 points. Même moi, même quand il fait des actions de fou, qui remonte le terrain, qui dribble dans le dos, et tout. En fait, tu regardes ça, ça te paraît normal. Moi, je suis en mode, oui, bon, bah voilà, Wemby, quoi, 35 points et tout. Et après, tu prends un peu de recul, tu vois toutes les réactions à ce match-là, et tu te dis, bah oui, ça attend. C'est vrai qu'il a 22 ans, c'est son premier match de play-off, et en fait, il fait un match à 35 points.
Il fait mieux que Tim Duncan. Il fait mieux que Tim Duncan pour
son premier match. C'est complètement dingue d'être autant à la hauteur du rendez-vous tout de suite.
T'as raison, parce qu'il y avait une attente colossale à San Antonio. Ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient pas connu les Spurs. D'ailleurs, ils ont pris les anciennes couleurs. C'était magnifique.
Ce maillot, il est splendide.
Mais tout était magnifique quand ils sont arrivés tous en costume noir. C'était stylé.
Cadeau de Kelly Olynyk, t'as vu, c'est Kelly Olynyk.
Ah non, j'avais pas vu Kelly.
Kelly Olynyk, il a offert un bon d'achat chez un tailleur sur mesure. Génial. Et tout le monde, ils ont tous fait le même costume et ils sont tous arrivés comme ça.
J'aime pas du tout ce principe où pourtant l'anniversaire, c'est toi qui payes. Mais...
oui, mais.
Bon, on sait qu'on n'aura pas de costard là-bas.
Ah, je pense qu'ils n'ont pas de problème de pour boucler le fin de mois.
Je sais pas.
En fait, ils se font juste des délires avec leur
Rosette. Exactement. Mais les Spurs, pour moi, font un match solide, mais ils ne font pas un match exceptionnel, San Antonio. Début des Spurs, début des playoffs, t'as pas joué depuis une semaine, il faut un match solide. Tu vois que le supporting cast qui a été bon, Fox a été bon, Castle a été bon, ils ont tous été bons autour de lui, Vassell a été bon, et puis Victor, même si il y a des gens qui me disent il a pris que 5 rebonds à 2,24. Frérot, il a mis 35, laisse-le tranquille.
Les gens sont jamais contents.
Avec des pourcentages hors normes. Maintenant, moi je suis curieux de voir ce que va faire Thiago Splitter, parce que Thiago Splitter se rend compte que Donovan Clingan, c'est peut-être un problème dans son équipe, parce qu'il ne peut pas défendre sur Wemby et tu ne peux pas le faire défendre sur un parce que les Spurs, ils jouent avec 4 mecs au large, c'est Harrison Barnes et Clingan avec ses deux 18 ou ses 2,20, et ben il ne joue que 22 minutes, c'est moins que dans saison régulière, et il essaye de trouver des solutions.
Une question, Robert Williams, c'est normal qu'il soit à 0 degré à 3 points? Je l'ai vu deux ou trois fois, ça m'a un peu surpris quand même.
Ah, mais Clingan, c'est le pire profil pour défendre sur
grand,
Wemby.
Grand, long et lent.
Trop lourd.
C'est ça, donc il faut des mecs plus petits, pourquoi pas envoyer, je sais pas, ou Jeremy Grant. Ouais, des mecs plus petits qui peuvent l'embêter.
Écoute, Thiago Splitter, on va lui faire confiance pour tenter les choses.
Oui, ça va pas non plus être un chemin hyper facile pour les Spurs, parce qu'on sait dans les playoffs.
Les Blazers, pour moi, ils font un match correct.
Oui, très correct.
Ils sont pas à la rue, les Blazers.
Avdija, en plus, un peu seul. Avdija, qui fait son match un peu seul, si jamais ça se réveille, à côté. Donc non, les Spurs, va falloir se battre jusqu'au bout. Je vais pas vous vendre un match 7, mais
attention, Jrue Holiday, parce que lui, il connaît le chemin aussi.
Mais bien sûr, ouais, il y a une grosse expérience.
Donc on n'est pas inquiet, mais ça va pas se friser, quoi.
Faut pas croire qu'avec ce match 1, c'est tout droit pour les Spurs et qu'il va y avoir un sweep facile, quoi.
Alors, non, 4-1, quoi.
Un petit 4-1, ouais. Un
gentleman sweep.
Allez, on passe à la partie historique.
Vous allez donc, chacun votre tour, nous raconter les premiers playoffs d'une grande star de l'histoire de la NBA. Fred, nous démarrons.
Oui. Mais moi, je vais vous rappeler d'un mauvais souvenir. La saison 2019-2020, vous savez, la saison de la bulle. J'avais envie de parler effectivement de Luka Doncic. Il faut se rappeler que Dallas, sur cette saison, termine 7e. Alors, c'est un peu compliqué cette saison. Ça s'arrête à un moment parce que justement le Covid est passé par là. Et d'ailleurs, un des derniers matchs de la saison, vous savez ce que c'est ? Dallas-Denver. Et vous savez qui est le meilleur marqueur de ce match ? Et non, ce n'est pas Luka Doncic. Non, c'est Boban. Boban Marjanovic, 30 points, 17 rebonds, je crois,
souvent,
et il a complètement tué Nikola Jokic. Et donc, malgré cette saison un petit peu compliquée, on a quand même un joueur qui est sur sa deuxième saison NBA, qui tourne à presque 29 points, plus de 9 rebonds, presque 9 passes, et donc il fait une saison assez incroyable, il va finir 4e au vote de MVP, mais il va enchaîner ce qu'il ne connaît pas en NBA, les playoffs. Et là, il va se retrouver à jouer contre une équipe, parce que comme j'ai dit, ils sont 7e, il va jouer contre les Clippers. Les Clippers où il y a Kawhi, où il y a Paul George, mais normalement en forme à l'époque-là. Et donc, pour ses premiers playoffs, sur le match 1, ils vont le perdre. c'est Mavs, 118-110. Lucas, il va faire 42 points, 7 rebonds, 9 passes. Un bon petit match pour commencer, mais ils perdent. Match 2, il va avoir des stats un petit peu en baisse, mais ils vont gagner ce match. Il va faire 28 points, 8 rebonds, 7 passes, d'accord ? Match 3, ils vont perdre, et là, il va faire un triple-double, un petit triple-double, 13-10-10, mais c'est sur le match 4 que sa légende s'écrit vraiment. Il va faire un match fantastique, ils vont gagner, il va mettre le buzzer beater à 3 points, il va faire 43 points, 17 rebonds, 13 passes, avec le buzzer beater à la fin. Donc vraiment, match incroyable, ils rentrent dans la légende. Le match 5, ils vont le perdre avec Kawhi et PG qui vont mettre à eux deux 67 points. Le dernier match, donc le match
43-17-13.
43-17-13.
Première saison,
quatrième match. Après, avec encore, en plus, je te dis, ce tir qui permet de gagner le match. Ensuite, ils vont perdre le sixième match, mais lui va être encore parfait avec 38 points, 9 rebonds, 9 passes. C'est la première fois qu'on le voit, on pensait que ce serait une découverte pour lui. Non, juste, il a montré à tout le monde, c'est moi le futur patron, c'est moi qui connais bien ce niveau, et je suis capable de vous montrer et d'amener une équipe très loin. Alors oui, sur cette première série, ils vont perdre au premier tour, dans cette fameuse bulle, mais quelle sensation de voir un joueur aussi jeune arriver dans ses premiers playoffs et de faire des matchs comme celui-là. Et je me répète, avec ce match à 43-17-13.
C'est la première fois que j'entends Fred parler de Luka avec autant d'admiration.
Bah non, mais c'est incroyable.
Je te rappelle que tu nous as dit que les Lakers ne seraient jamais champions
avec lui.
Mais
c'est
vrai. Il peut ne jamais être champion puis faire des gols.
J'avais l'impression que tu jouais, mais que c'était un joueur qui t'agaçait.
Non, alors moi, je suis un énorme fan de Luka Doncic et c'est pour ça que ça m'agace. Mais oui, bien sûr.
C'est quoi les carences qui font qu'il ne pourrait pas être champion avec les Lakers?
Ben, je pense qu'il défend aussi bien. Il bouge aussi vite en défense que moi maintenant. Donc, le pauvre, je ne suis pas sûr que...
Expliquez-moi comment il prend autant de rebonds, ce mec, qui est justement qui n'a pas beaucoup d'énergie.
C'est un génie. Il est grand.
Ok, mais tu as quand même des intérieurs dans ces équipes.
Il est grand. Exactement, il est tellement intelligent qu'il sait où le ballon va tomber. Il connaît le jeu, il connaît le basket, il a cette intelligence de placement.
Pour ça, plus 4-5 rebonds chapardés au grand. Ou quand tu regardes les grands, ils y vont pas parce qu'ils savent qu'il faut lui laisser le rebond.
Ouais, les rebonds gratuits. Quoi.
Voilà, et puis il va gratter toujours 2-3 rebonds offensifs après ses propres tirs, tout ça. Donc on y est.
Ouais. Incroyable. Donc, incroyable. Première saison.
Il ne faut peut-être pas désespérer pour les Lakers.
Mais je ne désespère pas. Ils ne seront pas champions, mais je ne désespère pas.
Bah là, tu désespères.
Non, je ne désespère pas. Il va faire des bons matchs.
Avec Marcus Smart, ça va aller.
Marcus Smart peut compenser.
Alors, nous passons à la légende, Michael Jordan.
Ouais, Jordan. À la base, moi, je voulais prendre Jordan pour les playoffs 86, notamment avec ce match à 63 points contre Boston, qui reste à ce jour la plus grande performance all-time en playoffs. Et on fêtait les 40 ans d'ailleurs de ce match le 20 avril. Et après, je me suis aperçu que Jordan, en fait, avait joué les playoffs lors de son année rookie. Donc, je m'en excuse.
Ça a mis du temps à se mettre en route les Bulls de Jordan. Hein. Ouais, on oublie un peu.
Oui, mais il joue les playoffs dès son année rookie. Donc, on est en avril 85. Jordan, 21 ans, élu rookie de l'année, bien entendu. Sixième au vote du MVP pour sa première saison. Il est All-Star. Malgré un bilan négatif, les Bulls se qualifient pour les playoffs. Ils jouent les Bucks au premier tour, qui est deuxième de la conférence Est. Les Bucks, à l'époque, les trois meilleurs joueurs, c'est Sidney Moncrief, Terry Cummings et Paul Pressé, qui n'a aucun lien de parenté avec Elvis. Hein, je sais pas. Et les Bulls vont s'incliner 3-1, mais Jordan va faire une série en tant que rookie de très très haut niveau. Ouais, il est pressé. Les stats de Jordan sur cette série où les Bulls vont perdre 3-1, 29 points, 6 rebonds, 8 passes, 3 interceptions, 1 contre. Des stats monumentales. 1 sur 8 à 3 points en 4 matchs. Et pour la petite anecdote, petite stat marrante, les Bulls sur la série de 4 matchs, les Bulls entiers, ils vont shooter 19 fois à 3 points cumulés. C'était une autre époque. Donc les stats de Jordan sont monstrueuses. Et dites-vous bien que ces 29 points de moyenne sur sa saison rookie en playoff sera la moyenne la plus faible de Jordan en carrière en playoff. Puisqu'après, les playoffs, c'est quoi? 43, 35, 36, 35, 36, 31, 34, 35, 31, 30, 31, 32. Les moyennes de playoff de Michael Jordan. Et c'est d'ailleurs avec ces chiffres-là que Jordan possède aujourd'hui la deuxième plus haute moyenne de points de l'histoire des playoffs avec 33,4.
Derrière,
juste derrière Victor Wembanyama qui a 35 points de moyenne après un match.
C'est vrai? Ouais. Ah ben bravo Victor.
C'est beau. Hein.
Ça va durer jusqu'à après-demain.
Voilà. Mais peut-être pas.
Peut-être pas.
Et donc si on met de côté Victor Wembanyama, donc Jordan, la plus haute moyenne dans l'histoire, et le deuxième c'est Luka Doncic, 30,4 points de moyenne en carrière en playoffs.
Il y a un écart en plus. Hein. Ouais. C'est pour ça que Jojo, c'est le GOAT.
Tu vois, c'est pour ça qu'on a pris les deux bons choix. On va voir le choix de...
On va voir. Félix, on va voir. Qui as-tu choisi?
J'ai choisi...
Première saison de playoff, je rappelle. Oui. Première campagne de playoff.
Tout à fait. J'ai choisi Kobe Bryant. Donc, excellent. C'est sa première saison.
Encore un top 10 all-time.
En 97.
Attends.
Oui, dis-moi.
Non, pas top 10 all-time. Merci. Ah.
Top 12, il le met.
Ah, t'aimes pas Kobe?
Ah ouais, enfin, j'aime pas de Kobe. Si, il est quand même top 12, donc c'est quand même un joueur.
Top 12. Le truc n'existe pas top 10.
Bah, c'est toi qui as dit top 12, je rebondis juste dessus.
Parce que je sais, on a fait le classement avant d'enregistrer le podcast.
Comme la Ligue 1, top 6 avec l'OM.
Ah, vas-y, Félix.
Donc, Kobe, top 12 all-time, il est drafté en 13e position en 96.
Top 13 all-time, je trouve que ça va bien.
Top 13 de la draft en 96. Il était avec le statut de lycéen hyper talentueux, mais sa première saison, elle est plutôt timide parce qu'à l'époque, le patron incontestable des Lakers, bah, c'est Shaquille O'Neal. Et ses lieutenants, il s'appelle Eddie Jones et Nick Van Exel. Le rookie Kobe, lui, il tourne à moins de 8 points de moyenne en 15 minutes par match en régulière, donc il a un tout petit rôle. Il joue son tout premier match des playoffs le 25 avril 97. Petit clin d'œil à l'actu du moment, c'est contre Portland, comme Wemby, qu'il a joué son premier match de playoffs. Sauf que Kobe, lui, il n'a pas claqué 35 points, il s'est contenté de 2 petits points pour son premier match des playoffs en 46 secondes passées sur le parquet. Donc un tout, tout petit rôle. Mais ce n'est pas ce match-là qui m'intéresse. Moi, je vais vous emmener...
Ah, comme par hasard, je vous emmener
pas. Mais ça ne va pas être vraiment plus mais mieux pour Kobe, ce que je vais te raconter, c'est que je vous emmène au 12 mai 97. Les Lakers sont au deuxième tour après avoir éliminé Portland, mais ils sont dos au mur contre le Jazz de Karl Malone et de John Stockton qui mènent 3-1 dans la série. On arrive donc dans ce match 5 où la défaite est interdite pour les Lakers. La fin de match, elle est irrespirable. Les deux équipes sont à égalité, 89 partout, et la balle est dans les mains des Lakers pour la dernière possession. Donc là, il rappelle, il faut absolument gagner ce match, sinon ils sont éliminés. Problème, le Shaq est sorti pour 6 fautes, et Robert Horry, qui est l'habitué des shoots clutch à l'époque, il a été expulsé après avoir pris une faute technique. Du coup, le coach des Lakers, Dale Harris, il s'en remet au jeune et au petit rookie Kobe Bryant pour prendre le tir de la gagne. Il reste moins de 10 secondes, Kobe remonte le ballon, et il se passe ça.
So Kobe Bryant, the young rookie straight from high school. 8 seconds left. Bryant guarded by Russell. 5 seconds left. 4. Bryant drives. Pull up. Shot on the way. No good. Carmelo rebounds. We go to overtime.
Kobe, il prend un petit shoot à mi-distance, mais il nous envoie un énorme airball au buzzer. Donc là, il se pensait en sauveur, mais ça touche, même 15, pas, ça touche même pas le cercle. Et il y a un truc très marquant sur cette vidéo, pour aller la voir, c'est que c'est exactement sur le même parquet, donc celui du Jazz, et dans le même décor que le fameux shoot de Michael Jordan contre le Jazz en 98. C'est ce shoot-là qui permet aux Bulls et Jordan de remporter leur 6e titre. Et donc, vous pouvez aller voir la vidéo, car c'est vraiment impressionnant. On dirait la même scène, sauf que là, pour Kobe, bah, c'est complètement manqué. Derrière, il y avait 89 partout, donc ça part en prolongation. Côté Lakers, personne ne veut prendre ses responsabilités, ses shoots en prolongation. Donc c'est à part Kobe qui enchaîne les tirs, personne veut prendre les shoots. Sauf que Kobe, il enchaîne les tirs, il enchaîne les airballs aussi. Donc il y avait ce airball à la fin du match, du temps réglementaire. Et après, en tout, il balance 4 airballs, 4 shoots affreux qui touchent même pas le cercle en l'espace de 5 minutes. Donc à l'arrivée, pour son premier match coup près en playoff, Kobe nous sort ce qui deviendra, et le surnom est assez terrible, le Airball Game. Donc c'est quand même pas très flatteur. Mais sauf que s'il n'y avait pas eu ce Airball Game, Fred, on n'aurait pas eu le même Kobe ensuite. Je vais te citer Jerry West quand même. Jerry West, tu valides
Top 10
Je connais James West. Mais...
Top 15. Top 15.
Jerry West, qui était GM des Lakers à l'époque, qui résume le mieux ce qui s'est passé ce soir-là, il a dit « Je pense vraiment que c'est le moment décisif dans la carrière de Kobe Bryant. Vous savez pourquoi? Parce que si un gars avait shooté un Airball dans cette équipe, puis un second, il n'en aurait pas pris un troisième. Mais sauf que Kobe, lui, n'avait pas peur. Et je crois que c'est une des choses qui l'ont porté vers l'excellence. Okay. Personne ne voulait prendre les tirs à trois points dans cette équipe.
En fait, on essaye de faire une analyse positive d'un mec qui a chié sur un match.
Écoutons quand même Jerry West. Moi, j'ai quand même tendance à faire confiance en Jerry West en termes de basket. Et il a dit, je vous garantis que l'année suivante, lorsqu'il est revenu après l'été, c'était une personne différente. Il ne voulait pas que ça se reproduise. Kobe lui-même, au moment de sa retraite, il en a reparlé. Il a dit « ça a été un tournant pour moi dans ma carrière. Les commentaires du public et les doutes, c'était un bon moyen de voir si j'en avais dans le ventre. C'était l'enfer, mais ça m'a façonné. » Donc comme quoi, c'était un tournant dans la carrière de Kobe. Et petit clin d'œil du destin, Kobe, c'est contre le Jazz qu'il a fait son dernier match en carrière, dans un match très Kobe-esque, donc avec 60 points, à 22 sur 50 au shoot. Il n'y a pas eu de airball ce soir-là, mais à 22 sur 50. Très Kobe-esque comme match.
Fred, il a fait 2 saisons pour prendre 50 tirs. Je ne sais même pas ce que j'aime dire en 2 saisons.
Bon, comme quoi, il y a de l'espoir pour Con Knepel.
Il a fait un bon play-in. Hein.
Les airballs en prolongation, c'est terrible quand même. Hein,
Non, mais c'est bien de raconter ces histoires-là, puisque t'es pas forcément un joueur accompli dès ta première saison, et c'est pas forcément très grave.
Il était très jeune en plus. Hein.
Très très jeune.
Tu t'aperçois que c'était vraiment l'équipe de Shaq.
Bah oui.
Merci Félix.
Il n'y a pas de discussion sur ça, mais je te remercie.
Une histoire qu'on ne connaissait pas, que je ne connaissais pas.
Vous connaissez Airball Game.
Airball Game, tu sais.
C'est ton quotidien, toi, les Airball Games, toi, Pierrot.
Moi, au basket, je pense que si on fait un match tous ensemble, je fais plus de Airball que de shoot qui touche le cercle. Vraiment. Hein.
Ah, je te confirme.
Ah, vraiment, c'est sûr. Ouais,
hein. Surtout si je défends sur toi.
Mais toi, je passe entre tes jambes.
Ok, on essaye quand tu veux.
Allez, le quiz.
Il n'y a pas de Tariq Abdulwahad. On s'est fait deux éléments majeurs en moins. Et c'est vrai que c'est... excusez-moi, je suis vraiment désolé. Allô? Oui? Attends chérie, je suis en train de répondre à une interview, je te laisse.
Et si c'était ça le principal danger pour les Bleus? Un trop plein de sollicitations avant l'Euro?
Je suis vraiment désolé. Hein.
Je suis vraiment désolé. Hein.
Allez.
Alors juste.
Oui quoi.
Je trouve que
c'est un StarTac sur téléphone.
Ouais je crois. En plus. Alors je tiens à dire que ça ressemble à du harcèlement. De à chaque fois mettre cette
non, pas à
ce son
fois.
Là.
Ça faisait longtemps là, frère.
Mais la semaine dernière.
Tu vois, j'allais même pas rebondir et c'est toi qui t'y arrêtes. Donc tant pis pour toi.
Oui hein. Mais c'est du harcèlement.
Alors donc c'est un alors vu qu'il y avait pas vraiment de thème, en tout cas pas de thème très précis.
T'as fait une boucle.
J'ai fait une boucle oui pour le quiz, mais d'abord on va démarrer avec un blind test. Des chanteurs dont le nom commence par un W, comme Wemby, qui a été nommé meilleur défenseur à l'unanimité.
Ça
c'est une idée d'Arthur Robert, c'est pas moi ça. Tu vois. D'ailleurs, on peut en dire un mot, ça, c'est important le fait que ce soit à l'unanimité.
Ah oui, c'est vrai. Oui,
non mais bon, on s'en doutait ou pas forcément?
Bon, on se doutait qu'il serait défenseur de l'année, évidemment. À l'unanimité, on s'en doutait un petit peu, mais...
C'est un journaliste sans première place.
C'est quand même assez incroyable.
On peut toujours se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un journaliste qui va vouloir faire un peu le mec, un peu le hipster, à faire le malin, à pas le vouloir être le premier? Bah si, un peu, là.
Le mec avec une chemise à carreaux.
Ça veut dire qu'il a convaincu, il a convaincu tout le monde.
Exactement.
Ok. Ouais. Alors, premier extrait, donc W pour la première lettre.
Weekend, The Weekend.
Ouais. Allez, c'est bon, on va pas s'éterniser. Deuxième extrait.
Wiz Khalifa.
C'est Félix.
Ouais.
Bonjour Félix. Comment?
Sois pas surpris comme ça.
Non, mais il y avait pas mal de bruit, donc j'étais pas sûr. Attention. Là, on prend un peu la machine à remonter le temps. Troisième extrait.
Avant que tu t'en ailles.
Comment?
Willy Denzé?
Non.
Weshden,
Anissa. Bravo. Hein. Alors, c'était pas le morceau que j'attendais.
Oui,
donc,
parce que c'est pas très vieux, voilà. Ça.
Donc, c'est maintenant qu'on prend la machine à remonter le temps.
Et c'est pas Weshden, ça?
C'est qui, ça?
Ça, c'est Weshden, ça. Là, ce que t'es en
train de faire, c'est Weshden. Le morceau d'avant, il y a une erreur. Hein.
Ah bah oui, c'était
morceau
pas Weshden.
Le morceau d'avant, il y a une erreur.
Weshden, elle a changé.
Oui, parce que Weshden, c'est une meuf.
Ça, c'est Weshden.
Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Bah, déjà, tu peux pas donner un point.
Je peux pas donner un point. Mais il y a un point, ça, c'est sûr.
Et je suis le seul en studio qui a remarqué que c'était pas Weshden.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'était chelou. Donc, je donne le point à Félix.
On va remonter le temps quand même.
Je sais pas, j'ai rien, j'ai aucune indication. Il y a personne en régie, c'est la catastrophe. Donc, on va en rester là. Donc, ça fait 2 points pour Félix. Et 1 point pour Stephen. Voilà.
C'était un magnifique blind test.
Ouais, c'était pas terrible, mais je lui avais dit de pas le faire. Alors, culture générale, c'est pareil, il n'y a pas de thème. Alors, on va prendre les noms des franchises qualifiées en play-off. Une petite question comme ça pour s'amuser, juste pour s'amuser. Quel est le vrai nom du Raptor?
Vélociraptor.
Vélociraptor, exactement, Fred. Bravo.
Putain, j'avais pas capté que c'était pas une question de basket. En fait.
Non, c'est culture générale.
Culture
générale. C'est un dinosaure à plumes. C'est un oiseau, en fait, le Vélociraptor, de 2 mètres de long. Ah, ouais. Ça fait peur quand même. Carnivore. Oiseau de 2 mètres, ça fait flipper, non?
Ah, ouais, on a pas envie de croiser, Pierre. On te confirme.
Ok. Donnez-moi une traduction française de hawk qui ne soit pas faucon.
Oh. Hawk.
Ouais, il y en a pas mal.
Tony Hawk, skater.
Non. Hawk. Un hawk, qu'est-ce que c'est un hawk?
Une roquette, un missile.
Un aigle?
Un aigle, non. Un aigle, non. C'est pas un aigle, justement.
Hawk. Un aigle marin?
Des céréales? OAK.
Non, faut chercher un oiseau, un nom d'oiseau.
Ah, c'est quand même un oiseau.
Ouais. Un pigeon.
Reste sur les oiseaux. Non, un hawk, c'est pas un oiseau quand même. C'est quand même un rapace.
Un faucon.
Faucon, on n'a pas le droit.
Ah oui, pardon.
Alors,
une buse.
Ah, une buse, c'est bon. Bravo, ouais, bravo, Steve. Une buse, un busard, un autour et non pas un vautour, un autour ou surtout un épervier. C'est un épervier.
Ça fait moins rêver. Hein.
Ça fait moins rêver.
Stylé, les éperviers de Cholet.
Une belle de buse. Toi.
Et enfin, que signifie Trailblazer?
Ah, Trailblazer.
Ouais.
C'est une jaquette de l'armée.
Non. C'est pas un blazer, non, c'est pas un blazer.
Je crois que je l'ai su.
Trailblazer.
Trailblazer. Ça a un rapport avec l'histoire des États-Unis et donc de l'Oregon.
C'est avec le train ? C'est les rails ?
Non, pas trop. Mais c'est un chemin, ils suivent un chemin pour faire quoi ?
Christophe Colomb, pour creuser les mines.
La ruée vers l'or ?
Là, tu y es presque. Tu y es presque.
Conquête de l'Ouest ?
Oui, tu y es. Ça veut dire les pionniers. Ah, les pionniers qui sont installés dans l'Oregon, à l'ouest des Rocheuses. Je donne allez, un point à Félix et un point à Fred.
Ah oui,
parce que sinon, il m'a... Tu sais pourquoi ? Juste parce qu'il m'a menacé du regard.
Je suis pas... Stephen, j'ai dit quelque chose ?
Non, il écoutait tes...
Donc 2 points pour Steve, 3 pour Félix, 2 points pour Fred, on passe au basket. Ah. On va faire une boucle.
Déjà ?
Donc, on démarre sur les finalistes pour le MVP, puis on finira sur les finalistes pour le MVP. Shai, alors attention, Shai, c'est une nouveauté. Shai, Jokic et Victor, les trois, ou aucun des trois, ou 2 sur les 3. Bah oui, forcément, il y a plusieurs solutions.
Et on doit citer lesquels, 2 ?
Ah bah bien sûr, il faut citer lesquels, 2. Laisse tomber.
Bah non, vas-y.
Fred, la plus facile. J'ai une médaille d'argent olympique. Shai, Jokic, Victor, les trois, aucun des trois, ou 2 sur les 3. Une médaille d'argent.
2 sur les 3, Jokic et Wemby.
Excellent, bravo. Steve, j'ai fini dans les 10 meilleurs marqueurs par match cette saison.
Non, t'es mort. Jokic, j'ai une médaille d'argent au jeu.
Oui. 2016, ouais.
2016.
Ah ouais. Mm-hmm. Il était là déjà.
Ah, ouais, il serait tombé dans le piège, j'aurais dû lui faire. Alors, à
on
toi.
En a parlé la semaine dernière en plus. C'est pas la semaine dernière qu'on en a parlé ici.
J'ai fini dans les 10 meilleurs marqueurs par match cette saison.
J'ai fini dans les 10 meilleurs marqueurs par match cette saison. Shai, c'est une certitude. Victor, non. 24 et quelques, c'est pas suffisant pour être dans les 10. Nikola Jokic me semble être un peu au-dessus. Donc je vais dire 2 sur 3, c'est Jokic et Shai Gilgeous-Alexander.
Bonne réponse. Victor est 13e. Et enfin, Félix, j'ai fini parmi les 10 meilleurs rebondeurs offensifs par match cette saison.
Offensif. Ouais.
Il y en a un qui est forcément pas dedans.
Oui.
Oui, mais okay. Shai n'y est pas. Allez. J'hésite entre Jokic et aucun des trois. Et je vais y aller en disant ah, Jokic prend quand même beaucoup de rebonds, mais pas tant offensif. Eh, je vais dire aucun des trois.
C'est la bonne réponse, ouais. Bravo. Et tu fais bien d'hésiter, puisque Jokic est 12e et Wemby 35e. Voilà. Alors, du coup, on est sur les rebondeurs offensifs. Qui est, cette saison, le Français le mieux classé au rebond offensif ?
Rudy Gobert,
Félix, il est 3e, hein, avec presque 4 rebonds offensifs par match. Qui est le premier de ce classement ?
Donovan
Kingan, avec 4,5. Il y a quand même des qualités, ce garçon.
Ah oui, oui.
Ah, mais des qualités, bien sûr.
Il a des mains aussi quand même.
Je prends pas maintenant.
Ensuite, Donovan Kingan. Pourquoi porte... Non, pardon. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est dur. Donovan Kingan porte le numéro 23, alors que son numéro, c'est le 32. Mais le 32 a été retiré par les Blazers en hommage à quel joueur ?
Clyde Drexler, Terry Porter.
Non.
Terry Cummings ?
Roy Hibbert.
Non.
32. Greg Oden ?
Non.
Le 32 ?
Ouais.
Pour Magic ?
Non.
Parce qu'ils étaient fans ?
Non.
Rachid ?
MVP des finales 77 et MVP 78.
Mochix ?
Non.
Ah,
Oui, c'est ça. C'est ça.
Walton.
Oui,
mais c'est ça.
Bill Walton.
Ah oui, mais j'en ai parlé il y a 2 semaines en plus.
Exactement, ouais, tu en as parlé il y a 2 semaines. Oui. Donc ça fait 5 pour Steve. Mais cela dit, c'est un des joueurs préférés de Fred.
Oui.
Donc je pensais que tu aurais trouvé. Bill Walton, champion avec Portland en 77. Et avec quelle autre franchise ?
Les Bucks.
Non.
Les Lakers ?
Les Lakers.
Non.
Hein.
Bill Walton. Golden
State. Les Bucks ?
Non.
Warriors ?
Non.
En quelle année ?
En 86.
Philippe, les Sixers,
les trois,
les Celtics,
Celtics 86, cette année-là en 86, qui est MVP,
Larry Bird,
ah, il enchaîne, attention, il enchaîne, il prend le large, 7 points Félix, 5 Stephen, 3 Fred,
Larry Bird, on revient sur les oiseaux, une buse,
ah mais c'est bon, on a fini la boucle, Larry Bird ou Jaylen Brown, les deux ou aucun des deux. Steve, je détiens le record de la franchise sur le nombre de matchs consécutifs à plus de 30 points.
Je détiens le record de la franchise sur le nombre de matchs consécutifs à plus de 30 points.
Félix, il a la réponse, je vois, dans ses yeux.
Je veux dire Larry Bird.
C'est les deux. Il l'a fait cette année, là, Jaylen Brown. Il a égalé cette année. 9 matchs consécutifs à plus de 30 points. Félix, dans ma carrière, je shoote à plus de 49% de réussite. dans ma carrière.
Jaylen Brown est plutôt propre, mais je le vois pas non plus à 49. Larry Bird, oui, c'était la propreté incarnée. Donc je vais dire Larry Bird.
La bonne réponse. 49-6, c'est énorme quand même. Hein.
Propre, hein.
Et 47-8 quand même, hein, Jaylen Brown. Hein. Fred, j'ai le record de la franchise de shoot à 3 points en playoff.
Jaylen Brown ?
Mais non, Fred, si je te demande à toi, c'est Jason Tatum, ni l'un ni l'autre.
J'y ai pensé un peu ça, j'étais quasiment sûr que c'était Tatum.
Donc les Celtics ont fessé les Sixers pour le premier match de la série. Lors de ce match 1, Vidji Ejkombe a disputé son premier match de playoff en tant que starter. Quel autre starter de Philly disputait son premier match de playoff?
Kelly Oubre?
Non.
Son premier match de playoff?
Quentin Grimes?
Adem Bona.
Ah ouais. Adem Bona starter, absolument. Adem Bona, auteur de 12 points en finale de l'Euro 2025. Qui a terminé meilleur marqueur de la finale?
C'est Sengun.
Sengun. Sengun 28 et c'est Bonga côté allemand, le meilleur marqueur, 20 points. Et
il est là.
Tu n'as pas mis le point Pierrot, mais
si je l'ai mis, ouais, ça fait il
est en confiance à Pierre.
Il est en train de vous éclater. 9 points pour Félix, 5 pour Stephen et 3 pour Fred. C'est dur les boucles.
Oui.
Ouais, parce qu'on va loin, on va sur la finale de l'Euro.
Je trouve ça marrant moi comme principe.
Vrai ou faux sur Alperen Sengun? Alors, Steve, le plus jeune joueur des Rockets a cumulé 2000 points, 1000 rebonds et 500 passes.
2000 points? Je pense que c'est vrai.
C'est vrai.
Il m'a fait peur.
Félix,
j'avoue.
Surnommé le Michael Jordan de la Turquie.
Ah non.
Et si, en Turquie.
Ouais.
Fred.
Les Turcs, ils n'ont pas beaucoup vu jouer Michael Jordan dans leur carrière. Hein, mais
c'est vrai que c'est bizarre. C'est Baby Jokic, mais ça, c'est aux États-Unis. Ouais. Et en Turquie, c'est le Michael Jordan de la Turquie. Et Fred, Wembanyama n'a jamais inscrit plus de 25 points face à Sengun.
C'est absolument vrai.
C'est faux. C'est 3 faux. Fois sur 10. C'est vrai qu'il lui posait problème, mais quand même, il lui a mis des petits cartons quand même. Question Mesmer. Hein.
Le nouveau spectacle de Mesmer avec RMC.
Je vais vous faire la question où vous devez être d'accord avec moi pour avoir le point.
Oh putain, là, putain, il recommence.
Osez l'expérience où maîtrise de soi et fascination se rencontrent.
Tu peux me séparer.
T'as trouvé ça où, toi?
Mais qu'est-ce que tu me fais chier, toi? Voici la question Mesmer.
Avec RMC.
Question Mesmer, puisqu'on est revenu à Wembanyama. Hein. Donc on a bouclé la boucle, mais on continue sur les prétendants au titre MVP. Alors attention, pour défendre sur Jokic. Vous préférez Victor ou Rudy Gobert? Stephen.
Pour défendre sur Jokic, vous préférez Victor ou Rudy Gobert? Écoute, moi je pense que je préfère Rudy. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Rudy, tu peux l'exposer éventuellement. C'est-à-dire que quand tu défends sur Jokic, c'est défendre beaucoup de possessions sur du post-up et éventuellement faire des fautes. Et je préfère que Rudy soit en foul trouble, que Victor soit en foul trouble parce qu'il est trop important de l'autre côté.
J'aime beaucoup comment tu dis foul trouble.
Foul trouble. Je préfère que Rudy ait des problèmes de fautes plutôt que Rudy Gobert, que Victor. Parce que Victor, j'ai trop besoin de lui en attaque et je ne peux pas me permettre qu'il soit trop vite pénalisé par les fautes pour aller sur le banc.
Intéressant,
voilà.
Félix. Ah,
bon argument. J'aurais aimé avoir cet argument. Mais je n'ai pas. Non, je vais quand même dire Wemby pour la simple et bonne raison que déjà on aime avant tout le spectacle et le basketball, donc on a envie de voir deux des meilleurs joueurs du monde s'affronter en un contre un. Et pour une deuxième raison plus technique qui est que quand même Gobert il est un peu en galère quand tu l'emmènes au large à 3 points, là où Jokic est plutôt pas mal.
Avec
donc,
son coude en avant.
Et c'est ça. Donc plutôt Wemby qui est plus mobile quand même pour aller au large.
Et Fred?
Après, je préfère Rudy Gobert parce que s'il s'épuise sur. Sur Jokic, c'est pas très grave, parce qu'effectivement, en attaque, il va pas avoir une grosse importance, donc il peut s'épuiser, il peut tout faire, il peut lui donner des coups. En plus, il est très anguleux lui aussi, il est très costaud. On l'a vu, il a épuisé Nikola Jokic sur le dernier match, parce qu'il est plus costaud, parce qu'il est un peu plus lourd, et j'ai envie de mettre quelqu'un un peu plus costaud, un peu plus lourd sur Jokic.
Un point pour Stephen, un point pour Fred.
T'as pas envie de voir un contre un Wemby?
Spectacle, on s'en fout, il faut gagner.
Ouais, c'est ça.
T'as vu comment il l'a quand même empêché de s'exprimer cette nuit? Bon. On finit très dur sur la question multipoint. Ah oui. Très dur.
Mais c'était dur déjà.
Ouais, c'était dur. Je vais vous donner des doubles, des triples points pour cette question. Pas pour toutes les réponses. Hein. Je vais vous demander tous les coachs de Rudy Gobert. C'est, alors, il y a bien sûr des coachs qui valent qu'un point, évidemment. Il y en a qui valent deux ou trois, mais ça sera.
Qui décide de ça? C'est toi?
C'est moi sur le moment. L'inspiration pour voir si Fred peut revenir. Puisque là, on est à 9, 6 et 4.
J'en ai pas dans la tête, à part Finch.
Chacun le temps.
Eh bien, Chris Finch, c'est
oui,
bon.
Mais c'est
ça, ça te fait un point déjà.
Super.
Bah, c'est bien. Attends, il n'a pas joué qu'à Minnesota. Hein. Ensuite, c'est Steve.
Herman Kunter.
Herman Kunter.
Celui-là. Voilà. Ah non, celui-là, il n'est pas dur. Non, celui-là, il n'est pas dur.
Ça fait un point.
Oui,
Là-bas, j'allais prendre deux.
Ok, ça fait 7 points pour Steve, 9 pour Félix et 5 pour Fred. Félix, c'est à toi.
Plus que 9, non ? Je l'avais dit plus tout à l'heure.
Oh, c'est bon, tu as gagné. Arrête.
Non, non, t'as 9.
Mais qu'est-ce qu'il est mauvais perdant,
ouais, ouais.
Mais j'ai l'impression qu'il m'a annoncé plus de points il y a 2-3 minutes. Mais c'est pas grave. Quinn Snyder.
Quinn Snyder, c'est un point.
Bon, attention, après, vu comme il a prononcé, ça mérite 0 par contre.
Il n'est pas boche non plus. Hein.
C'est vrai. Quinn Snyder.
Fred.
J'en sais rien.
Si, si, mais réfléchis. Il y a d'autres équipes quand même.
Oui, il y a d'autres équipes. Oui.
Ah oui, bah, quelles équipes ?
Vincent Collet.
Bah voilà. Ça vaut qu'un point, ça. Même un demi oh, presque. Bah, hein, parce que tellement je t'ai soufflé. Quoi. Steve.
Ouais.
Vas-y, à toi.
Il n'a pas joué avec Freddy Fautou.
Alors ça, je l'avais noté, mais je n'étais pas sûr. J'attendais une validation. Il n'a fait aucun match avec Freddy Fautou.
Bah non.
Non, non. Zéro.
Pas besoin.
Ok, zéro. Bah, c'est bon.
Pour moi, c'est pas besoin.
Donc non, les zéro. Deux derniers, ils valent 3 points. Je ne connais ni l'un ni l'autre.
À Cholet, je pense qu'à Cholet, il a pas eu que Herman Kunter. Je pense qu'il a eu un autre coach.
Il y en a un
coach.
Autre, je n'avais jamais entendu son nom, je vous le dis franchement. Peut-être vous le connaissez, hein, c'est très possible. Hein. Ah,
je vais peut-être l'avoir, moi, du coup.
Moi, j'ai donné un nom.
Ouais.
C'était peut-être l'assistant de Vincent Collet, Rudy Nellom.
Non. Enfin. Rudy Nellom, je connais. Félix.
Il n'a pas été coaché par Philippe Hervé.
Non, c'est pas bon.
Ça vous c'est vite.
Il y en a un donc à Cholet, il y en a un aussi à Utah.
Jean-François Martin.
Utah, je m'en rappelle plus.
Non, mais Utah, je connais pas ce mec.
Et à Cholet.
À Cholet.
En plus, saison 2012-2013, non ?
Je pense que je sais qui c'est en plus. C'est pas un mec qui alterne avec les garçons et les filles.
Bah si, c'est Philippe Hervé.
Non, un autre.
Laurent Buffard.
Laurent Buffard.
Non, c'est pas Laurent Buffard.
Initial.
Initial JMS.
Ah, Jean-Manuel Souza.
Oui.
Ah. Oui, Jean-Manuel Souza.
J'étais sur connu.
Connu que tu as Cholet. Il a coaché au Havre aussi.
Et l'autre, c'était Tyrone
dans les Mauges.
Corbin. À Utah.
Ah ouais. Ah ouais.
Corbin Dallas.
C'était 3 points. Hein. Bon, et victoire de Félix. Bravo Félix.
Bravo Félix.
Il a combien de points, parce que
il a combien de points,
10 points.
Parce que quand il va rentrer chez lui à sa femme, il veut dire combien de points il a eu. Combien 10. Bah t'as 10 points, Félix. Bravo.
RMC Basket Time.